venez les potes, venez chez moi, y'a pas papa. Et venez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et venez les filles, bijou, chouchou, Lady Diana, poupou, zizi, mimi, papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Dans le frigo, y a tout ce qu'il faut. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un pain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dis Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et t'es des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas qu'elle est vétuste. Tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Didi Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
On danse encore un petit peu sur ce fabuleux générique.
Voilà, bonsoir, bonsoir, vous êtes bien à la causerie, il est bien 22h, et trois petites brouettes, ouais c'est une petite spéciale case dédiée à Emma, bisous Emma parce qu'elle n'est pas là ce soir. Et donc, la causerie sur Radio Canu, toujours 102.2 sur Lyon et sa région, radiocanu.org, via internet, partout ailleurs, dans le monde, la galaxie, enfin partout partout.
L'univers,
effectivement. Ce soir, causerie, alors... On a des invités qui seront là parce qu'ils étaient déjà là et puis ils viennent faire un petit coup de promo pour un truc qui va bientôt se passer. On a Fab qui est là.
Salut à toutes et à tous.
Salut toi. On a Clara qui est à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir Clara. Et on a une nouvelle petite voix. Non, c'est pas moi, moi tu me connais déjà.
Toi c'est Jean-Yves.
C'est ça, c'est Jean-Yves. Bonsoir, ouais. Bonsoir, bonsoir. Et on a Nadège qui vient rejoindre la causerie.
Salut.
Elle est toute en joie. On ne dira pas qu'elle est ligotée sur sa chaise, hein, mais vraiment, c'est plein de plaisir. Donc voilà, c'est une première pour elle ce soir, et puis ben, elle sera amenée à revenir régulièrement, autant qu'elle le veut et elle le peut. Et voilà, on en recausera peut-être. Hein. Ouais. Donc,
et ben donc on va déjà peut-être présenter nos invités.
Mais oui.
Allons-y.
Merci. Alors, nos invités, on a... Rappelez-moi, Quentin et Lucie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Quentin, il était déjà passé à la causerie, j'ai même tout noté, c'était la causerie 81, du 21 décembre. Vous pourrez réécouter, vous pourrez la réécouter, c'était à l'occasion de la venue du CLAP.
C'est ça.
Qui est donc le collectif lyonnais d'artistes polyvalents.
Impeccable.
Ouais, c'est sérieux la causerie.
Il a révisé.
Ben ouais, attends quand même un minimum, hein, faut pas déconner. Donc voilà, et vous venez nous parler ce soir d'un projet. Moi, je vais donner le nom et vous allez expliquer le concept.
Ça marche.
Parce que l'inverse, je pense que c'est la merde. Alors, le nom, ce sera donc, je l'ai noté, Les Arcanes Sybarites, qui se passera au théâtre des Asphodèles.
Absolument.
Et ben, qu'est-ce que c'est donc ?
Alors, c'est une série semi-improvisée. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir 5 épisodes, de février à juin. Un épisode et une seule représentation par épisode, un épisode par mois. Et le principe de la série semi-improvisée, c'est donc du théâtre sur scène avec des comédiens improvisateurs. Les scènes sont écrites, le spectacle est donc écrit. Par contre, les comédiens n'ont pas de dialogue et c'est à eux d'amener tout ce qui est le dialogue derrière. Nous, on a écrit un univers qu'on essaye de faire vivre. Et c'est eux qui le font vivre sur scène. Et il y a vraiment un jeu en fait avec les improvisateurs, parce que par exemple ils ne sont pas au courant. Alors là ils sont au courant depuis aujourd'hui de l'épisode qui va se passer dans 8 petits jours. Par contre ils sont pas au courant du reste de la série et nous on joue avec eux pendant 5 mois.
D'accord. Et alors ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est vos rôles respectifs en fait par rapport à cette série théâtrale improvisée. Eh bien, peut-être Lucie, tu peux commencer.
Ouais, du coup, on est cinq auteurs. D'ailleurs, on va saluer les trois autres. Raphaël Balin, Quentin Tarlet et Ariel Ezra. Et donc moi, je fais aussi partie des auteurs et je fais aussi la direction d'acteurs.
C'est ça. Voilà. Et tu es membre du CLAP.
Ouais, absolument. Voilà.
Ouais, c'est un projet 100% CLAP, qu'avec des clapiens dedans.
Ce qui explique la polyvalence, au final, qu'on retrouve dans l'écriture que ensuite dans la direction des comédiens. Mm-hmm. Ouais, non, mais j'ai hyper bossé, quoi. Pardon.
On est tous admiratifs, mais on le regarde, il est à fond. Hein.
J'étonne toujours. Et donc toi Quentin, c'est
Je suis aussi dans les auteurs et je suis sur la mise en scène pour les spectacles. Et oui, ce qu'on parlait de pluridisciplinarité du projet, là on y arrive vraiment avec le principe de la série semi-impro, parce qu'en plus des comédiens, il va y avoir des musiciens qui vont accompagner en live, et il y a une partie vidéo, des vidéos et de l'animation qui est projeté.
Ah ouais.
Et on travaille avec des animateurs qui s'appellent Nymphicus Productions. C'est aussi qu'on fait notre superbe affiche. Donc voilà, pour vraiment faire vivre le spectacle. Et enfin, pour compléter et donner une couleur à tout ça, on a fait appel à un collectif qui s'appelle le Clivra. C'est le club de l'imaginarium vaporeux rhône-alpien.
Non, à vapeur.
À vapeur.
Vaporeux, mince. Non.
Ils vont m'en vouloir.
Oh mince.
Et c'est une association de steampunk, parce que c'est l'univers de la série, c'est l'univers steampunk.
Oui.
Donc la science-fiction rétro-futuriste, un peu à la Jules Verne. Et donc eux, ils vont amener tout ce qui est accessoires, costumes, pour vraiment donner la couleur à ce qu'on veut faire vivre.
Ouais. Et alors je renvoie maintenant justement à cette causerie qu'on avait fait ensemble, parce que justement vous aviez déjà parlé, parce que vous aviez déjà fait une série comme ça.
Yes.
Donc c'est peut-être pour dire aux auditeurs et aux auditrices, vous retrouvez peut-être encore plus d'éléments dans cette causerie-là, qui était vraiment autour des projets du CLAP, et que là ce soir c'est vraiment pour dire aux gens, viendez, faut rappeler la date.
Ouais, mais voilà, mais viendez, mais quand et où et à quelle heure? Alors, parce que bon,
lundi 16 février, donc dans 8 petits jours, pas demain, mais le lundi d'après, et c'est au Théâtre des Asphodèles. Le Théâtre des Asphodèles, c'est derrière la Part-Dieu, c'est vers Maisonneuve.
C'est ça. Allez, bon,
super théâtre.
J'ai super préparé le truc. C'est 17 impasse Saint-Fuseb.
Euseb.
Ah oui, pardon, c'est un E, pas un F que j'ai mis. Et c'est dans le troisième. Et j'ai vu des tarifs.
Imbattable. Réduit. C'est 10 euros plein tarif et 8 euros tarif réduit.
Yes. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des résas. Est-ce qu'il vaut mieux faire les réservations?
Ah ouais, complètement.
Ouais. Déjà, nous, ça nous rassure quand on...
puis, les places sont limitées quand même. Donc, pour les résas, c'est par téléphone, toujours sur le téléphone du club. Donc, le 07 81 99 35 49.
Tu peux le redire?
Ouais. 07 80 99 35 49.
Bah voilà.
Bah nickel. Et est-ce qu'on retrouve des infos par rapport à la pièce sur un site, sur le site du CLAP, ou est-ce que
sur le Facebook?
Ouais, le Facebook du CLAP, et il y a aussi une page Facebook, Les Arcanes Sybarites.
Et ben formidable. Et ben on fera.
Bah enfin moi il y a juste un truc, c'est à quelle heure?
À 21h.
Ah voilà, parce que ça on l'avait pas encore dit.
Oui.
Parce que bon, les gens ils vont peut-être pas arriver le 16 à 8h du matin jusqu'à minuit.
Donc... On y sera nous.
Vous les recrutez du coup s'ils passent plus tôt.
Voilà. Si on en trouve des meilleurs que les comédiens qu'on a.
Ah ben bravo. Et ben voilà, est-ce que vous avez des infos à rajouter, des trucs à rappeler?
Et ben les dates suivantes.
Ouais.
Parce que c'est en cinq tableaux, c'est ça? Enfin,
ouais.
Cinq pièces?
Cinq épisodes.
Épisodes, oui, je vais y arriver. Bon. Et donc, chapitres. C'est quand la suite?
Alors, donc, 16 février pour le premier, 16 mars pour le second, 20 avril pour le troisième, 11 mai pour le quatrième, et le dernier, ça sera un dimanche et pas un lundi, ça sera le dimanche 7 juin.
Bah voilà.
Et alors là, moi, je suis hyper curieux, mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu, je sais pas comment dire, les débuts du truc, enfin je sais pas.
Donc nous, on a une intrigue qui se passe à Paris en 1950, et on part d'une uchronie. Donc une uchronie, en fait, c'est qu'on change un élément du passé, on le transforme, ce qui fait que la suite des événements s'en trouve changée, et le Paris de 1950 que nous, on dépeint, c'est pas celui que tout le monde a connu, il a jamais existé, mais nous on a envie de le faire vivre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1896, au moment où tout ce qui est révolution industrielle commence vraiment à commencer, et ben nous on enlève tout. Tout ce qui est ressources minières, donc pas de métal, pas de rien voilà. Qui soit dans...
Du jour au lendemain, toutes les grandes mines se retrouvent à sec, et donc c'était une période où ça était un peu compliqué. Ce qui va arriver dans 50 ans avec le pétrole, ça arrivait à cette époque-là.
D'accord.
Et donc les grandes industries se sont effondrées, entraînant dans leur chute les grandes puissances mondiales. Et donc on arrive dans un monde après, donc 50 ans plus tard, de bas-fond.
Avec une milice au plein pouvoir, de la corruption partout.
Voilà, de la drogue, de la prostitution. C'est un univers... On va dire que le premier épisode, ça va être un univers vraiment très... On ne peut pas dire ce qui va se passer après, bien sûr. Mais le premier épisode, ça va être un univers de bas-fond, un peu à la Gang of New York. Cette couleur-là.
Mais ça va être une série drôle.
Mais par contre, voilà.
on
fout nos comédiens, nos personnages dans un univers vachement riche, mais vachement sombre.
Et on leur dit, soyez drôles.
Voilà.
c'est simple, ça va, quoi.
Impeccable. Donc on le rappelle, le 16 février à 21h, il vaut mieux réserver avant, mais le numéro vous l'avez si vous avez écouté l'émission, ou alors vous allez sur le Facebook du CLAP, ou sur le Facebook des Arcanes Sibarites.
Tout à fait.
C'est ça. Et ouais, on le mettra sur la causerie. Elle suit bien Nadège, qui n'a pas de micro et qui parle quand même. Voilà. Et donc du coup voilà, et puis merci d'être passé.
Merci à vous.
Merci de l'invitation.
Voilà. Vous aviez plus rien à
rajouter.
Non mais c'est juste être sûr qu'on ne coupe pas non plus tout.
Je crois que c'est bon. Un spectacle avec plein de monde autour. On a quand même trois comédiens principaux. On va peut-être les citer. Donc Claire Bataille, Maxence Lemarchand et Jérémy Jeannès, qui eux vont être là sur toute la série. Et après ça va être du guest à chaque épisode. Il y a beaucoup de monde qui va tourner. Parce que c'est une série aussi où, au fur et à mesure des épisodes, il va y avoir du voyage, etc. Donc, les autres personnages vont tourner, mais ces trois-là, ils sont partis avec nous pour l'aventure
pour les cinq épisodes.
Pour les cinq épisodes.
C'est cool. Un grand merci d'être venu présenter.
Et je crois qu'on dit merde, en fait.
Et on répond rien.
C'est très bien. Rendez-vous à tous.
Non, j'allais faire un truc avant pour couper et lancer de la musique. Alors voilà, Shanice, c'est pour toi et je suis vraiment très très désolé de ce que je vais faire là. Je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices.
Et de nous aussi.
Et de vous. Alors, attention. You're on Radio KNU. We will be back after the music.
doesn't shine. At least I'll have my
toi, c'est la causerie. Eh oui, c'était Pink Martini avec un titre qui s'appelle Clémentine. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup Pink Martini. Non, mais c'était pour dire. Alors, c'est bien la causerie et c'est bien 22-23 le dimanche. On va déjà signaler aux auditeurs et auditrices de Radio Canu qu'il n'y aura pas les yeux grands ouverts après nous. Oui. Voilà. Donc,
Si c'était ça que vous attendiez, ben, vous pouvez éteindre tout de suite et vous laisser tout seul.
Voilà. Vous pouvez rester avec nous sinon.
Sinon, c'est vachement bien de rester à la causerie.
Ben oui.
Voilà.
Moi, je voulais rappeler quand même deux petits trucs qu'on n'avait pas rappelés à l'entrée de l'émission. C'était rappeler quand même qu'on a un mail où vous pouvez continuer de contacter la causerie. C'est le blog, c'est... non, pardon.
Le mail, d'abord. lacausericanu@gmail.com.
C'est ça. Et on a un blog aussi où vous pouvez retrouver tous les podcasts des anciennes émissions et tout ça et tout ça. Et ben, c'est blog au pluriel, donc blogs.radiocanu.org/lacausserie.
Et je vous invite d'ailleurs à aller visiter les nombreux blogs des émissions qui sont sur les blogs de Radio Canu, ça s'appelle comme ça, et vous découvrez qu'il y a plein d'émissions qui mettent des podcasts et qu'il y a plein d'émissions sympas sur Radio Canu et que ça vaut le coup de les découvrir, voilà.
Mais bien sûr.
Faites-vous plaisir.
Voilà.
Et on va quand même dire bah que oui. Ce soir, comme on l'a dit, c'est la première d'une des deux chroniqueuses qui rejoignent eux, la causerie. Et donc, Nadège, ça va ?
Salut, ouais, ça va.
Tu es toute timide pour ta première, ça va bien. En plus, on a pris un sujet super facile
ouais,
et tout.
J'ai pas du tout la pression.
C'est vachement bien. Ben, je vais introduire le sujet.
Ben oui.
Hein, mettez-le sur la table. Et donc, du coup, voilà, moi, ce qui m'a un petit peu interpellé ces derniers temps, c'est la fameuse loi Macron. Alors, on va pas faire une émission sur l'ensemble de la loi Macron, parce qu'il y a beaucoup de saloperies dans cette loi. Il n'y a pas que ce dont je vais parler. Et il faut lutter contre la loi Macron, hein. Donc, n'hésitez pas à aller dans la rue, pétitionner, sortez, gueuler, parce que voilà, on est en train quand même de détruire des siècles quasiment d'acquis, avec une seule loi et un grand coup de pied de l'Assemblée nationale. Mais il y a un des articles de la loi Macron qui, moi, m'a interpellé. Qui est en fait, enfin, ça m'a interpellé parce qu'en fait, je me balade beaucoup sur Internet et que j'ai vu plein de gens dire ah, super, ça y est, la loi Macron va faciliter l'arrivée de la GPA en France. Alors, je comprenais pas trop le lien entre la loi Macron et l'arrivée de la GPA en France, surtout que c'était fait par des gens qui sont plutôt pro-GPA qui écrivaient ça et pas du tout les tarés de la Manif pour tous ou autre, mais plutôt des gens. Voilà, qui serait dans les sphères libertaires et de gauche. Et je me suis dit, mais je comprenais pas le lien entre la facilitation de la GPA et la loi Macron, parce que je voyais rien dans la loi Macron qui le permettait.
C'est un vrai fourre-tout.
Même si c'est un vrai fourre-tout, parce qu'elle, je rappelle, fait 256 pages. C'est une toute petite loi.
Qui de ce fait est très accessible, bien évidemment, à tout
un chacun.
Voilà. C'est ça.
Pour faire vivre la démocratie, c'est parfait. Et surtout, bon, que ça touche aussi bien à la réglementation des auto-écoles que ce dont je vais parler là, c'est-à-dire la réglementation du don de sang. Et c'est là qu'en fait ça devient intéressant, parce que dans la loi Macron, en fait, il y a eu un petit changement par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que en France, jusqu'à maintenant, tout don était un réel don, c'est-à-dire c'était gratuit. C'est-à-dire que si vous donnez vos organes, c'est gratuit. Si vous donnez votre sang, c'est gratuit. C'est la notion de don et l'État était garant de la gratuité des échanges de dons dits du vivant en France. Alors, ça paraît comme ça. Alors, quand il y a des gens qui font encore me dire oui, bah toi t'es un art et l'État et machin. Ouais, alors, ok, sauf que c'était quand même plutôt positif dans le sens où on partait du principe qu'on ne pouvait du coup pas marchander son corps ni marchandiser son corps, c'est-à-dire que on peut pas trop se découper pour se vendre, quoi, hein, pour faire un peu simple. Et la loi Macron, elle change quoi ? Ben, elle change qu'en fait, à la demande de l'Europe, en fait, en réalité, depuis un certain nombre d'années, il est demandé que l'EFS, qui est l'établissement français du sang, n'ait plus le monopole de la gestion des poches sanguines et surtout des poches plasmatiques. Alors là, on va me dire, ouais, pourquoi tu parles des poches plasmatiques ? Parce qu'en fait, parce que c'est vachement compliqué comme mot à cette heure-ci. Alors en fait, j'en parle tout simplement parce que les poches plasmatiques, c'est pas considéré comme du sang, c'est considéré comme un médicament. C'est quelque chose qui est issu du sang, mais qui est considéré comme un médicament. C'est quelque chose qu'on réinjecte, hein, c'est du plasma humain, qu'on réinjecte, mais qui est considéré comme une base médicamenteuse et qui n'est plus considéré comme quelque chose de vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on vous injecte un des médicaments vivants quand on vous vaccine, c'est vivant, hein, souvent dans le vaccin, sauf qu'on dit c'est un médicament et ça relève du droit du médicament. Alors c'est là que se trouve la petite entaille dans la loi, c'est que dans la loi Macron, il est dit que pour la gestion de tout ce qui est flux plasmatique, ce ne sera plus assuré par l'EFS, mais par l'EFS et d'autres laboratoires, et notamment un dont j'ai paumé le nom, et je vais vous le retrouver tout de suite. Pas le retrouver. Aide-moi, Nadège.
Octaplasma.
Voilà, Octaplasma, qui vont pouvoir gérer ça. Alors, ça a l'air anodin comme ça, sauf que pour obtenir du plasma, faut du sang. Et ce que prône Octaplasma depuis des années, c'est le droit de faire des prélèvements sanguins rémunérés. C'est-à-dire de dire, nous, comme on fait du médicament, on ne va pas faire des poches de sang, nous, on va faire des plaquettes. Donc, on veut pouvoir avoir notre propre réseau de prélèvements sanguins rémunérés. Et la loi Macron va un petit peu plus loin que ça, parce que si vous la lisez bien, elle dit qu'en fait, on peut rémunérer tout donateur de sang. Voilà, donneur de sang, je suis un petit peu fatigué ce soir. Tout donneur de sang. Et pourquoi elle dit ça ? Parce qu'elle dit que comme on ne sait pas à quoi vont servir les prélèvements sanguins, si ça va être
aussi bien du sang ou du médicament,
ou du plasma, ça va être trop dur de savoir vers quelle filière va être. Alors autant dire que tout le monde peut être payé.
C'est ça.
Vous voyez, c'est la logique du truc. Et c'est là
qu'on se demande le genre de dérive.
Parce que c'est là que j'ai compris le lien avec les gens qui disaient ça permet la marchandisation du corps finalement. Enfin, vous voyez, parce qu'on peut louer son corps comme on peut louer son sang, enfin le vendre en l'occurrence. Et là, j'ai compris un petit peu où était le biais. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir en arrière sur quelque chose qui en France était très très important, qui est le fait que le corps, c'est un don, point barre. Ça ne se vend pas. Alors, c'est assez drôle parce que les gens qui ont réagi sur cet aspect de la loi, il y a deux catégories de personnes. Donc il y a les pro-GPA, comme je vais les appeler, sans animosité, n'écrivez pas des mails méchants, c'est juste une dénomination. Et il y a ceux qui s'appellent les pro-putes. Parce qu'en fait, au final, les deux se sont retrouvés sur l'idée que si on peut vendre son sang, après tout, on peut vendre son corps, c'est en utérus, Et ils ont très vite extrapolé sur la notion de bah, c'est très bien parce qu'enfin la France devient moderne. Je ne suis pas très persuadé de ça, quoi, perso, mais voilà. Et vous voyez, c'était ça qui, moi, m'intéressait, c'est que dans cette loi fourre-tout, où on ouvre juste une brèche qui semble être une brèche purement financière, bah, ça ouvre un débat philosophique beaucoup plus large.
Bah, surtout, ce que j'ai vu, c'est que le mode de fonctionnement du don, en fait, en France, du sang, etc., en fait, alors. Bien évidemment, on peut aussi tirer à boulet rouge dessus, mais l'OMS, en fait, le désigne comme un des meilleurs systèmes, en fait, de fonctionnement. Parce que justement, ça ne cherche pas à faire
Parce qu'on reste sur le principe du don et.
C'est ça, il n'y a pas de financiarisation, en fait, de ces choses-là. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, on va dans le sens totalement inverse et on est prêt, en fait, à ouvrir une brèche à la vente de tout. De nous tous, en fait, du rein à nos. À
ouais, ça se fait déjà. Hein.
Oui.
Pas chez nous, c'est encore pas autorisé, mais on y vient aux États-Unis notamment, et on trouve des annonces de personnes qui vendent leur rein contre 120 000 euros, enfin 120 000 dollars, un poumon contre une reprise de crédit immobilier ou. Enfin.
Nadège, elle a très peur du micro.
C'est ça.
Mais ça va aller.
Mais au final, fin, ce que ça renvoie, c'est que le ressort est souvent le même, en fait. C'est-à-dire qu'on l'ouvre pour le plaisir et le bonheur de tous, bien évidemment. Sauf qu'à la finalité. Bah,
sauf que dans le fond, ce sont des personnes qui ont forcément besoin d'argent ou qui y ont recours. Le don du sang, c'est quelque chose de gratuit, c'est un don de soi. Ça peut pas être monétisé. Enfin.
Bah, ce qui est intéressant, parce que je sens que tu as très très peur de ce micro bleu qui est devant toi. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont démontré que le don du sang concernait 90% des gens qui donnaient leur sang, enfin qui vendaient leur sang, parce qu'aux États-Unis, il y a une rémunération quand vous faites prélever le sang. D'ailleurs, il y a aussi une rémunération quand vous faites prélever des ovaires, il y a aussi une rémunération des ovules, pardon. Il y a voilà, tout est marchandisé. Et en fait, ils se sont rendus compte, il y a des sociologues qui ont fait des études qui prouvent que c'est majoritairement des gens pauvres qui, en fait, dans 90% des cas, des gens qui sont dans la misère ou pauvres, qui donnent leur sang, qui vendent leurs ovules, qui ovocytes, voilà, j'y arrivais, c'était le mot que je cherchais, en fait, et je le trouvais pas, qui vendent aussi aux États-Unis, parce que vous avez le droit de vendre, comment on appelle ça, votre liquide rachidien, voilà, vous pouvez vendre aussi une partie de votre moelle osseuse, enfin, il y a tout un tas de trucs qui se monnaient, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte de marché, de dérive qui s'était faite au travers de ces marchés-là, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont vu ça comme un truc d'appoint.
Ben oui.
Donc, il y a des gens qui donnent leur sang tous les mois aux États-Unis. Et je rappelle qu'on vous le dit en France, et d'ailleurs, c'est dit pas qu'en France, en Allemagne, c'est la même législation, c'est tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 2 mois pour refaire l'ensemble de ces plaquettes, l'ensemble de ces globules rouges.
Pour
rester en bonne santé. Et là, on a des gens qui donnent tous les mois, voire toutes les 3 semaines. Donc, vous voyez, c'est parce que ça devient une sorte de revenu d'appoint. Et que comme, en fait, il y a plusieurs sources de prélèvement, parce qu'il y a plusieurs laboratoires, et ben, du coup, vous pouvez aller à un labo, puis dire, en fait, j'ai pas donné ce mois-ci, vous inquiétez pas. Et puis, comme ils sont pas très regardants, parce que je vous rappelle quand même, j'ai le chiffre en tête, donc je vais le donner, que le marché de la santé et le marché de tout ce qui est produits sanguins et produits humains, c'est environ 5 milliards de dollars par an. Milliards, hein, pas millions, milliards. Ben, on regarde pas trop. Dans ces cas-là, quand tu as 5 milliards à se faire.
Non, oui. Des fois même pour moi, on ne regarde pas. Hein. Donc, t'imagines bien que pour 5 milliards, on ne va vraiment pas regarder. Quoi.
Mais c'est intéressant de voir qu'en France, on amène en fait, cette logique-là comme étant une logique soi-disant progressiste, alors qu'en fait, pour moi, elle n'est pas vraiment progressiste, elle est plutôt régressive en termes de vision de l'être humain. Parce qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui disent, il y a un argument qui dit « Oui, mais la collecte de sang gratuite, ça coûte plus cher que si on rémunérait les gens. » Parce qu'on est obligé de faire de la pub. Vous savez, l'EFS, vous avez souvent vu les plaquettes de l'EFS, ça, et que du coup, pour ramener des gens, ça coûte extrêmement cher, alors que l'appât du gain amène très vite les gens. Bah oui, sûrement. Enfin, je veux dire, ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'après, la logique, c'est de se demander si on part dans cette logique-là, jusqu'où on va. C'est-à-dire. C'est très bizarre d'avoir cette vision purement comptable des choses. Parce que, en fait, en réalité, ce n'est pas une question de coût. En fait, le coût supplémentaire qu'a le don. C'est simplement la notion de dire chaque Français peut donner son sang, non pas parce qu'il a des problèmes d'argent, non pas parce qu'il a besoin d'une rémunération, non pas, mais parce qu'en fait il fait un don à la collectivité. Et surtout, il y a une notion qui est très importante, qui est de dire la marchandisation du corps n'a pas de limite Lorsqu'elle commence à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'en France, on part du principe, et ça se voit d'ailleurs partout en Europe où ça commence à se faire, on part du principe que la marchandisation du corps, si vous commencez par un aspect, alors il va y avoir forcément quelqu'un qui va venir dire bah, pourquoi pas ça aussi, pourquoi pas ça aussi, pourquoi pas ça. Et qu'en fait, au final, on élargit au point d'arriver à un système à l'anglo-saxonne, finalement, parce que c'est plutôt dans le monde anglo-saxon qu'on voit ça, où le corps est une marchandise comme les autres et où finalement, il se capitalise comme n'importe quoi. Voilà.
Ben oui. Alors, je sais pas. Moi, ce que je propose, c'est est-ce qu'on se fait une petite pause de zik, comme ça, on se reconcentre.
La Nadège prend un verre d'eau avant de tomber dans les pommes.
non, mais comme ça, non, mais parce
c'est
que.
C'est pas vrai.
Parce que là, je sais bien que j'aurais pu développer un truc, mais que ça va prendre plus de temps et que.
Ben, on le fait
c'est
après.
Peut-être le temps d'une petite chanson. Allez.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie, elles fassent l'amour, bien que toute la vie, elles fassent l'amour, qu'elles se marient 20 fois par jour, qu'elles se marient 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu mon cher, il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Et voilà, c'était la complainte des filles de joie de Brassens.
Et on est où ?
À Radio Canu.
Et c'est quoi comme émission ?
La causerie.
Eh ben voilà.
Allez. Eh ben alors pour résumer, alors ce soir causerie un peu causante en fait. On s'est un peu pris un sujet vu que on avait des invités au départ.
Et puis c'est un peu un nouveau format qu'on teste aussi pour
aussi,
voir
comme,
parce que comme vous le savez, une autre chroniqueuse va nous rejoindre après Nadège dans quelques temps. Et peut-être qu'un jour autour de cette table nous serons 6.
Mais oui.
Voilà. Bon, dont une qui se planque derrière la technique et qui veut jamais dire grand chose et qui a même pas dit bonjour ce soir.
Si.
Ah si quand même. Voilà. Et du coup voilà, mais c'est on teste un nouveau format.
C'est ça. Voilà. Donc pareil, vous avez le droit de faire vos retours toujours sur le blog ou sur le mail. Et donc là on était un peu, enfin on cause de la loi Macron qui prévoit qui
ouvre une brèche
au final la marchandisation du sang. Mais est-ce que la marchandisation ne va pas ouvrir du sang, ne va pas ouvrir la brèche à la marchandisation au final de tout ce qui compose le corps humain, et que donc au final, enfin ce que moi je me disais un petit peu, si oui, on peut le faire, parce que j'entends déjà des gens qui peuvent dire oui, mais t'as la liberté individuelle, etc. Il y a bien évidemment, je ne suis pas là pour censurer quoi que ce soit. Par contre, c'est à un moment donné, enfin, je pense foncièrement que là, c'est des
question d'éthique en fait et de politique en fait. Parce que oui, on peut le faire. En fait, on peut tout faire. Je veux dire, on peut, je sais pas. Enfin, il y a vraiment. Enfin, pour moi, on peut tout imaginer. Mais est-ce que pour autant, on doit le faire?
Ça doit rester un choix.
C'est ça.
Ça doit rester un choix. Enfin, on peut pas. Si on commence à ouvrir ce marché-là, je crois qu'il faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir recours à ce marché-là, mais pas par choix. Enfin, par un besoin, par une création de besoin. Parce que c'est des gens qui, la plupart du temps, sont dans le besoin et.
Sont dans la galère, effectivement. Et alors, moi, je voulais revenir sur un autre exemple qui, au final.
Est parlant.
Alors, il est parlant et en même temps, est-ce que ça fait partie aussi de cette marchandisation du corps et de l'être humain? C'est le commerce des cheveux. Alors, ça peut paraître complètement, je sais pas, anodin, parce qu'au final, c'est que des cheveux et que les cheveux, ça repousse et que. Mais en même temps, ça fait partie des individus et que.
Je sais juste qu'on en fait des perruques, mais après.
Et ben voilà. Et en fait, le truc qui est autour de tout ça, c'est en fait. J'ai quand même fait un peu de recherche et tout. Genre l'Inde, c'est 500 tonnes de cheveux par an qui partent vers les USA et la Chine.
Okay. Et ils en font quoi?
Eh bien, ils en font des postiches, des perruques qui sont ensuite revendues. Alors, j'ai des exemples, hein, dans genre des femmes qui vont faire couper leurs cheveux. Elles vont recevoir à peu près 7 euros. Et ensuite, les perruques, quand on les revend ou les postiches, etc., en Occident et chez les riches, eh ben, ça vaut à peu près entre 1200, 2000 euros, en fait, voilà. Et là aussi, il y a quelque chose de très frappant, encore une fois, c'est quand on regarde un petit peu, c'est au final toujours dans des coins reculés où en tout cas il y a de la pauvreté, etc. Et j'ai trouvé le cas d'un village, alors je crois que c'est au Vietnam, je veux pas faire de bêtises, dire de bêtises, où au final il y avait de moins en moins de paysans parce qu'il y avait de moins en moins de terres. Et ben maintenant tout le village y tourne grâce au business des cheveux. Et donc oui, effectivement, il y a toute la liberté individuelle de se lancer dans tout ce qu'on veut, mais moi ce que je vois derrière, c'est qu'il y a quand même un peuple qui au final perd aussi de son autonomie alimentaire, quoi. Alors après, les terres, elles appartiennent à qui et la spéculation qu'il y a dessus, effectivement. Mais encore une fois, on perd petit à petit une autonomie, parce que je pense qu'avoir des paysans, c'est plus que utile, hein, quand même, je pense, foncièrement.
Il en faut. Hein.
C'est ça, en fait, bouffer des cheveux, ça sert pas à grand chose. Et donc voilà.
Je suis pas sûr que ça nous reste beaucoup.
Non, justement. Et après, j'avais encore d'autres trucs. Et alors, par exemple, c'est pour le cheveu. Quand je vous disais, c'est peut-être pas forcément dans le même cas que le sang, que les reins, que tout ça. Ben, c'est en fait dans le code
civil,
dans le code de santé publique. En fait, on a le droit de vendre. Enfin, n'est pas compris en tout cas dans l'interdiction de vendre. C'est les poils, les dents, les cheveux. Il y a 2-3 trucs, enfin 4-5 trucs comme ça.
On a le droit d'aller se faire enlever les dents pour les vendre, d'accord?
Oui,
c'est les fétichistes qui sont contents.
Pourquoi pas?
Mais oui, non, mais et c'était très intéressant parce que c'était dans une émission que j'ai vue dernièrement et en fait c'était une juriste qui prenait les 3 codes, code civil, le code pénal et le code de santé publique. Et en fait elle disait, alors selon le truc du commerce, c'est interdit parce que le commerce des choses humaines, c'est interdit. Sauf le code de la santé qui lui dit est interdit toute partie du corps humain, sauf les ongles, les dents, les poils, les cheveux. Donc c'est quand même très très drôle parce qu'en même temps tu dis bon bah effectivement il y a peut-être pas lieu d'interdire de vendre ses poils. T'as bien le droit de vendre tes poils si t'as envie, quoi, tu vois. Mais en même temps c'est hyper compliqué parce que enfin je crois qu'il y a vraiment à un moment donné, je pense qu'il y a on ne peut pas faire sans l'idée quand même de l'analyse du fait que c'est quand même toujours les pauvres qui vont vendre leurs cheveux jusqu'à leurs reins, jusqu'à tout ce que tu veux, pour ensuite bénéficier de quelques piècettes.
Mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que ce qui est un peu embêtant, c'est que dans la réflexion qu'il y a aujourd'hui autour de la vente, même du sang, hein, voilà, que je peux lire à droite à gauche, c'est qu'on est vraiment dans une position un peu post-moderne, on part du principe que la lutte des classes serait terminée et que finalement tout le monde aurait les mêmes choix dans la société. Et en fait, moi, c'est ce qui m'embête un peu, c'est que d'abord, elle est loin d'être terminée, la lutte des classes. Je vais donner qu'un exemple concret, je vais pas aller à l'autre bout du monde. Hein. En France, les femmes touchent encore en moyenne 25% de salaire en moins que les hommes. Si ça, c'est pas une forme de lutte des classes, vous me rappelez.
Je crois que les derniers chiffres, c'est 18%.
Ah, c'est un petit peu mieux. Alors, bah, mais je crois que c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de chômeurs, en fait. Parce qu'en réalité, c'est ça.
Parce que le chômage n'est pas compris. Il correspond forcément à le salaire qu'on avait avant, mais il ne rentre pas dans les feuilles de calcul.
C'est ça, et du coup, ça fausse les chiffres. C'est bien que c'est pratique. Ça. Plus il y a de chômeurs, plus les femmes, l'écart se creuse, point, fausse pour les arts. Et enfin, bref, je voulais dire ça parce que, en fait, c'est ça, c'est que cette position-là, en fait, elle m'embête un peu parce qu'elle part du principe que quelqu'un qui, par exemple, toucherait, je prends un exemple très concret, toucherait un RSA brut, enfin voilà, autour de 494 euros, si ma mémoire est bonne. Toucherait ça en fait pour vivre, il aurait le même choix que quelqu'un qui aurait un salaire à 7000 euros par mois. Mais moi je veux dire, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, concrètement, on n'est pas dans les mêmes logiques, on n'est pas dans les mêmes sphères, on n'a pas les mêmes choix quand on est dans la survie.
On n'a pas les mêmes besoins.
Bah oui. Et quand on est dans la survie et quand on est dans l'opulence.
Bah, plus on est dans le besoin, moins on a de choix. Hein.
Exactement. Et ce qui est embêtant, c'est que cette lecture-là, qui est vraiment un petit peu, à mes yeux, postmoderne, dans le sens où on dit, ouais, mais la liberté individuelle prévaut sur le reste, bah, oui, sauf que en réalité, la liberté, elle n'est pas totale dans une société où il y a des gens qui survivent à côté de gens qui vivent trop. Vous voyez ce que je veux dire,
oui,
cette
oui,
truc.
Oui.
Et c'est un peu le voilà, c'est un peu ce qui m'embête, c'est que dans cette logique-là, on ne met jamais en avant le fait que ben il y a des gens qui font ça pour survivre et que du coup, on n'est pas dans un choix, on est dans la survie. La survie n'est pas un choix, c'est pas une façon de vivre correcte. C'est de la survie, comme son nom l'indique.
Encore une fois, je suis pas sûr qu'il faille passer. Qu'un don ou qu'un geste humanitaire, quel qu'il soit, doivent être
monnayables.
Et monnayables, encore une fois, c'est une ouverture à beaucoup de dérives. Mmh. Et on reviendra après dessus. Pardon, je m'éloigne.
Non, mais je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'après, il y a une logique à regarder et qui, moi, me semble importante, c'est de toujours regarder la société telle qu'elle est et pas telle qu'elle est fantasmée, c'est-à-dire telle qu'elle avance. Il suffit, moi je le dis souvent, il suffit d'aller faire une permanence syndicale un jour dans votre vie pour aller voir un petit peu les gens qui sont dans la galère. Vous allez vite comprendre ce que c'est que la survie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à 2 millions de kilomètres d'ici. Hein. Vous allez faire ça, dans n'importe quelle union départementale de n'importe quel syndicat, et puis vous faites une permanence syndicale et vous allez la voir, la misère, la vraie misère, celle des gens qui sont dans la galère totale. Et là, ça permet de relativiser, de se dire, ben non, il y a des gens qui n'ont vraiment pas le choix. Vous pouvez avoir des gens en face de vous qui vont effectivement faire le choix, comme certains disent, d'avoir 3 boulots, dont un au black, parce qu'il faut survivre.
Et effectivement, ces personnes-là, on ne pourra pas les blâmer d'aller donner leur sang.
Mais non, mais
bien
sauf que
évidemment.
Du coup, ils ne sont pas dans le choix. Ils sont clairement dans le. C'est la survie. C'est pas, il y a pas de choix dans ce truc-là. Donc voilà.
Tu voulais peut-être rajouter un truc?
Non.
Eh ben, je voulais continuer vite fait sur mon commerce du cheveu et sur tout ça, sur ce marché, parce que je trouve qu'encore une fois, on y retrouve toujours un peu des choses similaires. C'est alors déjà, je vous parle d'éthique, hein, on parle d'éthique justement. Enfin, je disais qu'à un moment donné, c'est peut-être des choix éthiques et politiques. Genre, rien que le marché des cheveux, par exemple, c'est quand même assez exceptionnel. C'est on a des prisonniers en fait qui sont rasés et dont on revend les cheveux
pour payer leur détention.
Ils sont rasés de force. Nourrir ce magnifique commerce du cheveu mondial, c'est tellement formidable parce qu'on a tous envie de merde sur les cheveux. Enfin bon, c'est assez incroyable. On a le cas aussi de gens qui sont. Enfin, il y a eu des cas. Moi, j'ai lu en tout cas sur le net et bon, c'était pas du tout. Enfin, c'était intéressant, mais où il disait il y a des gens qui se faisaient agresser dans la rue, des femmes avec des cheveux longs parce que dans certains pays, le fait d'avoir des cheveux longs culturellement, etc.
Ouais.
Il s'agit pas de juger là-dessus et qu'au final, elle se faisait agresser et tondre.
C'est en Inde, ça s'est beaucoup produit, notamment envers la communauté sikh.
Et tu dis, quand même. Et donc là, c'est toujours, encore une fois, c'est des similitudes dans les choses. Je trouve qu'il y a des choses qui sont assez gerbantes et je me demande jusqu'à quand on va se dire, bah, c'est pas grave, c'est la liberté individuelle. Sauf qu'il n'y a pas justement de liberté. Et je reprenais dans le New York Times, en fait, il y a un fournisseur ukrainien. Parce que ça aussi, hein. Alors l'Ukraine, c'est l'Eldorado du cheveu. Parce que cheveux blonds, etc., c'est l'Eldorado.
Et d'ailleurs, il y a une logique, c'est aussi l'Eldorado de la GPA et l'Eldorado du don d'organes payants.
Ouais.
Marrant, hein.
C'est marrant. Et donc, ce fournisseur ukrainien disait aux journalistes du Times, en fait, que
en fait, les femmes qui donnent leurs cheveux ne le font pas par plaisir, que en fait, en général, seules les personnes qui ont des problèmes financiers en fait ponctuels dans des régions défavorisées en fait vendent leurs cheveux. Il ne s'agit nullement d'un plaisir. Et j'avais le cas d'une autre femme. Alors c'était en Thaïlande. C'était une femme en fait qui a négocié sa tonte à 7 euros pour pouvoir acheter du riz.
Merveilleux.
Voilà.
Oui, mais ouais,
c'est et je trouve que au final on va aller dans les mêmes choses quoi.
C'est la survie.
Mais oui, c'est la survie. Dans...
C'est si on élimine la notion de lutte des classes, on enlève le, enfin le ce qui est le vecteur principal du capitalisme, qui est de mettre des gens dans la survie pour qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est quand on ne veut pas voir ça, et ben du coup on passe à côté du premier problème, qui est du fait que moi, quand on sera dans une société totalement égalitaire où tout le monde aura accès aux besoins dont il a besoin, on pourra avoir ces discussions là sans aucun problème, en éliminant la notion de lutte des classes et en disant elle n'existe plus, donc maintenant on peut parler de est-ce qu'on a le droit de se vendre, de vendre son corps, de vendre ses cheveux, de vendre ses reins, de vendre son poumon, pas de problème. Mais aujourd'hui, en réalité, quand on en parle, les gens qui en parlent sont des gens qui font partie généralement de la classe aisée et qui parlent au nom de gens qui vont
qui,
faire
eux,
ça.
Qui peuvent se permettre d'avoir le choix.
Voilà, mais qui parlent au nom de gens qui n'ont pas le choix. Et c'est ça le problème. Enfin, moi, c'est ce qui me dépasse.
Comme dans toutes les luttes où ceux qui dominent parlent pour ceux qui sont opprimés ou dominés.
Je sens que tu vas revenir là-dessus dans la causerie dans quelques temps.
Plusieurs fois, ouais. Il y a des chances.
Et t'avais l'exemple, tu nous avais parlé d'une nana qui avait mis en vente, je ne sais plus ce que c'était, mais ça m'avait épaté.
On en parlera peut-être après la pause musicale.
Ah ok. Ah bah Nadège, elle fait même le timing.
Moi je regarde l'heure et ouais, parce que je me dis que si on parle un peu comme avant, si on parle là-dessus maintenant.
Eh bah c'est parti,
allons-y.
Norman Mailer.
Oui.
Ok.
So many things you can think.
Vous êtes bien dans la causerie sur Radio Canus en 2-2. On vient d'écouter Putain Putain de Nouvelle Vague.
Bah voilà Clara, c'était très bien dit.
Avec un petit, encore un petit clin d'œil à Emma.
Oui.
Parce que c'était son petit titre qu'elle avait choisi.
Elle est pas morte, hein, rassurez-vous. Hein.
Ça fait un peu séance.
Elle l'avait choisi et nous l'avons passé.
Non.
Non, et par contre, juste te dire que c'était une super reprise d'Arnaud, le chanteur oui. Arnaud, et dont je conseille vraiment la discographie de A à Z. Voilà.
Oui, d'accord.
Donc, je te peux,
mais
je
très bien, merci.
Reprenons.
Et donc, tu voulais peut-être rajouter...
Et donc, juste avant, on parlait toujours de cette marginalisation du corps, et j'étais tombée sur ce cas. En 2008, une jeune américaine de 22 ans avait, dans le souci de pouvoir continuer ses études... proposer sa virginité à la vente. Et je trouve ça assez énorme quand même. Enfin, c'est. Voilà. Donc, ça s'intitulait Vente d'hymen en parfait état. C'est assez marchand comme titre.
Non, en même temps, c'est ni repris ni échangé, ce genre de choses.
C'est ça. C'est, et donc, elle vendait sa virginité dans ces termes-là. Faut pas oublier que la virginité, c'est un des plus grands symboles de pureté des grandes religions monothéistes.
Ouais, clairement.
On sait à quel point les États-Unis peuvent être puritains. Et donc, cette jeune américaine, pour pouvoir payer ses cours, a décidé de vendre sa virginité. Elle a fait tout un parcours. Donc, elle avait commencé par poser une annonce qui n'avait pas eu trop de vues sur eBay. Je crois que c'était sur eBay, où elle avait été refusée, où elle avait été enlevée. Du coup, elle a eu le soutien. J'ai oublié de noter de qui j'ai pris mes notes un petit peu, voilà.
C'est pas grave. Elle avait dû un soutien, disons.
Voilà, donc d'un ami ou de la famille, je sais plus. Enfin, voilà. Donc il a fait monter le truc, il a parlé d'elle. Et de fil en aiguille, elle est arrivée dans une émission où elle affichait clairement qu'elle coucherait avec n'importe quel mec capable d'aligner $1 million sur la table. Je trouve ça d'une violence. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé si elle avait réussi à vendre sa virginité. Après, oui, si, elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions. Je crois que la somme était montée jusqu'à 3 700 000.
Sérieux ?
Oui. Et, mais elle a aussi des propositions en parallèle de cinéma au Canada, de machin. Donc, du coup, on sait pas, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver à savoir si elle avait eu besoin de vendre sa virginité pour récolter les fonds dont elle avait besoin, si elle est allée jusque-là ou pas. Mais voilà, c'était là. Alors, ça date de 2008. C'est le premier cas apparemment qui a été recensé. Et depuis, eh ben, il y en a d'autres qui passent par ce genre d'annonces. Notamment une jeune, je ne sais plus d'où elle vient, mais une jeune fille qui vendait sa virginité pour pouvoir payer les frais de santé de sa mère. Voilà,
c'est ça, c'est qu'on... Il y a toujours cette même logique derrière, quoi.
C'est ça, on en vient toujours.
C'est des gens dans le besoin, en fait. Ils sont dans la merde.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, attention, moi je vais le dire, je pense qu'à la causerie, personne ici ne sacralise la virginité.
Non,
donc, voilà.
Donc c'est voilà. Mais par contre, il y a quand même l'idée, pour moi, il y a une notion qui est vraiment intéressante, c'est que là, vous voyez, c'est qu'on dit on peut faire ce qu'on veut. Moi, personnellement, je trouve que le premier rapport au sexe, et la première fois qu'on vaut mieux quand même que ça se passe à la cool avec des gens qu'on aime bien, plutôt quand même que de faire ça avec le premier venu avec qui vous paye pour le faire. Voilà. Mais ça, c'est sans sacralisation ni quoi que ce soit. Non. C'est juste que je trouve qu'en termes de logique, quand même, le sexe, c'est quand même vachement mieux quand on est consentant et super content, quoi.
Dans l'article sur lequel j'étais tombée de cette jeune fille-là, américaine, elle disait que de toute manière, quitte à perdre sa virginité derrière une bagnole avec le premier mec venu, autant qu'elle le vende.
Ouais, pas
et je trouvais ça, oui, voilà.
Fallait pas obliger de la perdre comme ça non plus, quoi.
C'est ça.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre que là, ça repose en plus sur un truc très machiste qui circule vachement aux États-Unis et qui est vachement encouragé par les films, les teenage movies, comme on dit, du fameux petit copain sportif qui vous viole derrière sur la banquette arrière de la voiture. Et c'est normal parce que c'est le bal de promo. Alors, mais ça, c'est ça le problème. Mais le fond du problème, il est là. Il est dans le fait qu'on a cette construction sociétale qui est là et qui est une construction pourrie et qui est en plus encouragée par pas mal de séries et de films film américain, et que ce serait quand même bien, jusqu'un jour, dans le film américain en question, elle mette une tarte au mec, elle se barre et qu'elle lui défonce la gueule
c'est
à
ça.
coup de tatane. C'est un petit peu plus positif, merde.
C'est vrai. Parce que...
Non mais parce que je sais pas.
Je suis très misandre sur les bords un jour, donc. Hein, on va pas rentrer maintenant dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais.
On y reviendra. Mais non, mais c'est ça, c'est que je veux dire, à chaque fois, il y a cette espèce de truc de légitimation de la position dominante du mec qui, de toute façon, a... Et non, mais merde, quoi. Enfin, voilà, faut. Bon, bref. Je vais peut-être pas partir là-dessus maintenant.
Non, non, mais enfin, en même temps, là, je fais mon auto-promo. Non, mais parce que ça, je trouve que ça rejoint aussi le bouquin dont on a parlé il y a 15 jours, je crois, sur refuser d'être un homme.
Oui.
Ouais, tout à fait.
Voilà, enfin, bref, c'est sur cette construction-là.
Lisez refuser d'être un homme.
Oui. Lisez-le. Ah, bah, clairement. Et ce que je veux aussi rajouter, c'est il y a aussi d'autres formes aussi où on vend son corps, parce qu'au final, c'est quand même, on est rémunéré en tout cas pour. C'est se faire tatouer des marques sur le
ouais.
corps.
Ouais.
Et c'est aussi un truc qui se répand. De plus en plus.
Ouais.
Donc on se fait tatouer par une marque, on la balade, donc on devient un panneau publicitaire et donc on reçoit une rémunération contre.
Et mettre la lumière aussi pour que l'on nous voit la nuit ou pas ?
C'est pas encore prévu, mais peut-être que d'ici quelques années, ils vont trouver un ou deux.
Un truc qui clignote.
Un ou vrai. Deux participants qui seront volontaires pour ça. Mais enfin. Et je trouve que oui, enfin, encore une fois, c'est, y a pas, il s'agit pas ici de faire le tribunal des démarches individuelles, et enfin, c'est pas ça du tout, c'est plus ça. Ouais, effectivement, c'est s'interroger jusqu'à où, en fait, on va aller.
Puis
en fait, et, alors que je pense qu'effectivement, tant qu'on n'a pas aboli ce putain de système capitaliste, patriarcal, etc.
Bon, t'as dit ce que je voulais
dire. Ah, bah, pardon. Et ben, je veux dire, à un moment donné, c'est trop facile, quoi. Enfin, je trouve que c'est trop facile de se dire, ah, bah, c'est bon, c'est pas grave, quoi. Mais arrêtez, enfin putain, pendant qu'il y en a qui arrivent à se gaver, il y en a d'autres qui sont en train de crever de faim. Pendant qu'il y en a qui jouissent de corps des autres, et ben il y en a d'autres qui doivent se soumettre aux volontés des autres. Ben le jour où on peut déjà se dire qu'on est dans une société où chacun choisit de se soumettre ou non, déjà, et ben on pourra peut-être discuter sous d'autres formes de vente son. Et en même temps, je pense que si on sort d'une société comme ça, pardon,
on vendra plus encore.
Oui.
Eh oui.
Je sais pas si
ou
c'est
réellement par choix parce
oui,
qu'on
oui.
aime ça et enfin
mais après
c'est... mais voilà.
Non mais moi je voulais juste rajouter un truc et après on passe au bref promis mais c'est très très court, c'est vraiment très court, c'est que je suis allé voir un film et je pense que Clara pourra vous dire qu'effectivement c'est vrai parce qu'on l'a vu ensemble. C'est un film qui s'appelle Jupiter Ascending ou Jupiter le destin de l'humanité, enfin, c'était un film, un titre merdique en français. C'est Lana et Larry Wachowski, non Lana et je sais plus le nom, Andy Wachowski je crois, ceux qui avaient fait Matrix, et en fait ils arrivent dans un film de science-fiction à faire un énorme et un superbe parallèle sur la notion de vendre son corps et de quand on a l'argent et les moyens, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Voilà, donc c'est un très bon film de science-fiction et je vous invite à aller le voir parce que la réflexion en second niveau est vraiment pas mal et elle rejoint la thématique de ce soir. Et comme c'est à l'affiche en ce moment, ça fait bien de oui. le dire maintenant.
Mais c'est formidable.
Et
ben
voilà,
on va
vas-y. Faire les brèves.
Ouais, on va faire les brèves, mais
attends,
j'allais
je
dire
jingle, alors.
Mais en fait, j'allais dire on va clôturer tranquillement cette
ah ouais.
petite causerie autour de ce thème de la marchandisation du corps. Et comme dit, je pense que c'est pas la première fois qu'on l'aborde, ça sera certainement pas la dernière fois.
Certainement pas.
Et Nadège a tué deux stylos depuis.
Et que voilà.
C'est
et, donc... et donc là, on va passer effectivement aux brèves. Donc je te laisse faire l'annonce, Fab.
Tintintin, c'est les brèves.
C'était joli,
non, mais je veux
ça.
Dire.
J'ai pas dit que je faisais un joli jingle.
Ah ouais, mais bon, là.
Ça vous va pas?
Bon, si, si, non, on va pas demander.
Vous voulez que je le fasse en anglais?
Non, c'est
hello.
Bon.
This is brave.
Breaking news.
Breaking news.
Alors.
On a causerie.
Ouais, c'est. Waouh. On va bientôt vous laisser tranquille, les auditeurs et auditrices, vous inquiétez pas. On ne sait même pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent plus, ils ont tous lâché le truc. C'est pas grave.
Non, mais c'est ça.
Si tu es là, tu es peut-être le seul à nous écouter. Fais-nous, lance-nous un signe, une fusée ou je ne sais pas.
Appelle-nous.
Appelle-nous.
C'est quoi le numéro?
Pardon. Non mais on va jamais partir là. Allez, on se reprend. On a plusieurs petites choses à vous annoncer. Déjà, c'est l'appel à don de Radio Canu qui continue, même si en ce moment vous entendez plus les jingles sur les bandes continues, c'est parce que, eh ben ouais, Radio Canu, ben on a des petits soucis avec tout ça et que c'est toujours une radio autogérée.
associés et associatifs, donc on se débrouille avec nos petites mains et nos petites têtes et avec nos agendas respectifs, et que ben c'est pas toujours facile. Donc en ce moment vous entendez plus ces jingles,
mais ils vont revenir,
et donc on peut quand même continuer de rappeler que ben on continue de chercher de la thune, de la caillasse, du flouze, du pognon,
du fric, du blé,
enfin tout ça quoi, tout ce que tu veux, pour pouvoir offrir un local à cette radio. C'est très drôle parce qu'on personnifie une radio, mais bon, en tout cas c'est pour offrir un local sur le long terme, devenir propriétaire. Quel vilain mot. En tout cas là elle serait quand même collective, hein. C'est pas une propriété privée, hein. Voilà,
c'est au nom de Radio Canu.
Ben oui, c'est la radio quand même. Et donc ben vous pouvez faire
un don,
pardon, oui, vous
par
pouvez
chèque.
Faire un don par chèque. Tu vas rappeler les coordonnées.
Et ben vous envoyez votre chèque à Nadège, elle est plus en face de que moi. Tu arriveras pas à lire. Alors à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01. Je répète, Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01. Et j'en profite juste pour rappeler que la prog à Radio Canu, c'est tous les mardis soirs entre 19 et 20 heures. Et il y a des, entre 19 et 20 heures. Et il y a des gens qui sont là pour vous recevoir. Si vous avez des questions sur la radio, si vous avez envie de faire de la radio, si vous avez envie d'amener un don, si vous voulez acheter des t-shirts sérigraphiés Radio Canu en édition limitée, qu'il y en a bientôt plus, donc faut venir vite les chercher. Et donc voilà, n'hésitez pas, c'est tous les mardis entre 19 et 20 heures à la radio.
Et si, alors là aussi, il n'y a pas de montant minimum, maximum, tu donnes ce que tu peux. Hein. Et
tu peux donner beaucoup si t'as beaucoup.
Ah bah bien évidemment, si t'as beaucoup, bah tu donnes ce que t'as quoi. Arrête les conneries quoi.
Il y a des temps courts si nous écoute. Non pardon.
Non.
Elle a bien massagé.
Et ce que je voulais aussi dire, c'est que les dons, vous pouvez aussi les faire par virement. Ouais. Et ça, vous allez sur le site internet de Radio Canu, vous allez trouver le numéro, le code IBAN.
IBAN. Ouais,
IBAN. Et voilà. Et l'autre truc que je voulais rajouter quand même, c'est si vous faites des dons et que vous payez des impôts, vous pouvez demander à recevoir à recevoir
un récépissé fiscal, un reçu fiscal.
Ouais, c'est un truc comme ça.
C'est ça, Clara? Reçu fiscal.
Voilà, un reçu fiscal. Vous demandez juste un petit mot, vous dites voilà, moi je voudrais un truc, et on vous le fait. Et ouais. Et ben voilà, ça c'est fait pour l'appel à dons.
Et en plus, vous aurez votre prénom qui sera écrit sur la page, première page du site de Radio Canu. Ça vaut tout l'or du monde.
Oh, c'est mignon. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est pas ce qu'on peut rappeler, c'est une projection qui y aura le 9 février, pardon, à 20h au cinéma Le Comédia, c'est avenue Berthelot dans le 7e arrondissement, et ce sera la projection de Pôle emploi Ne quittez pas, où en fait on suit la vie, ou je sais pas comment on peut dire ça, de personnes qui travaillent à Pôle emploi et qui doivent gérer à 4 2000 dossiers, enfin un truc que voilà, enfin c'est là aussi
encore un boulot sapin à prendre.
Oui, bien sûr. Et c'est organisé, pardon, par le collectif unitaire 69. Ce qu'on peut aussi rappeler quand même, c'est le CLAP aussi, qui sont venus nous voir en début d'émission. Donc si t'as pas entendu, ami auditeur, auditrice, eh ben faudra réécouter. Qui sont venus nous présenter les Arcanes Sybarites. C'est donc des épisodes.
Des pièces à épisodes.
Des pièces à épisodes, en tout cas en 5 épisodes. Donc voilà, on vous mettra des infos sur le blog de la causerie.
Et ça commence le lundi 16 février.
À 21h.
Au théâtre.
Au théâtre. Des Asphodèles.
Voilà.
C'est dans le 3e arrondissement. Voilà, je crois qu'on a donné toutes les infos. On n'a rien oublié.
Mais il en reste une qui concerne la causerie, c'est que la semaine prochaine, nous aurons Rafou, petit guitariste fou. Je vais l'appeler comme ça, c'est pour que ça rime. Donc vous verrez, il fait de la chanson guitare-voix. Je vous invite à aller sur. J'aime pas donner des marques américaines. On YouTube.
Sur YouTube. Genre, si c'était français, c'était mieux.
Ou Dailymotion, c'est pareil.
Ah oui, justement.
Non, mais je crois que il a une chaîne YouTube. Donc allez sur YouTube et tapez Rafou. Vous pouvez voir, il a quelques vidéos de ce qu'il fait, et il sera là.
Rafou avec un F ou un PH?
Rafou, voilà, et c'est vraiment pas mal, et voilà, et faites-vous plaisir, comme ça vous pouvez le découvrir avant de l'avoir en direct à la causerie la semaine prochaine, et on est vachement content de le recevoir parce que on aime bien avoir des artistes. Et si vous êtes vous-même artiste, voilà, et ben n'hésitez pas à nous contacter sur lacausericanu@gmail.com pour nous dire j'aimerais bien passer dans l'émission parce que je kiffe vachement ce que vous faites et vous allez kiffer vachement ce que je fais, par exemple.
C'est vrai.
Ou de quoi? Mais non, mais non, mais parce que je veux pas fermer ça, parce que on va pas partir dans un débat.
C'était de l'humour, même si vous aimez pas la cause.
Moi j'ai pas d'humour.
Non, mais si vous aimez pas la causerie mais qu'ils veulent passer quand même, ils disent pas qu'ils aiment pas la causerie. C'est tout, ils disent je voudrais passer.
Ouais, enfin bon.
Voilà.
Ben voilà, on va se quitter là quand même, il est 23h. Et trois petites brouettes, ça fait pile poil une heure.
C'est tiens. Bien.
Bon, on n'a même pas dépassé presque.
Presque pas. Et de toute façon, ah oui, alors je répète que les yeux grands ouverts ne sont pas là ce soir, donc n'attendez pas l'émission d'après, ce sera les merveilleuses bandes continues de Radio Canu qui vont redémarrer.
Ouais. Et puis ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Nadège,
je serai pas là la semaine prochaine.
Tu seras pas là, mais comme dit, vous réentendrez Nadège de différentes manières.
Et ta première, ça s'est bien passé alors?
Ça va mieux là.
Tu reviens, ça va mieux.
Ouais, je reviendrai.
Tu reviendras. Ah oui.
Eh ben alors, si on est dans l'autopromo, on s'en fout, on continue. Nadège, vous avez déjà entendu sa voix dans les lectures antimilitaristes qui ont été organisées par des animateurs et des animatrices et des amis de Radio Canu, que vous pouvez retrouver sur le blog des archives de Radio Canu. C'est les lectures de trois nouvelles qui sont issues d'un livre antimilitariste.
Et on espère réussir à enregistrer les autres. Ceux qui sont motivés à faire de la lecture peuvent se manifester aussi, pourquoi pas.
Bah oui. Donc voilà. C'est juste comme ça, quand même. Il y a des trucs qui se font, autant en parler. Quoi. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine.
Et c'est quoi qui clôt l'émission?
Ah oui, c'est vrai. Eh bien, on va se terminer. Pardon. Pardon, c'est vraiment la fatigue, il est vraiment l'heure de rendre l'antenne. Donc, avant de vous dire qui c'est, on fait quand même un petit bisou à Emma, encore une fois.
Des bisous.
Elle a eu beaucoup de bisous quand même ce soir, dis donc.
Ouais, plein.
Et on se quitte avec Hubert Félix Thiéphen, c'est un titre que je voulais passer la semaine dernière, qui s'appelle La nostalgie de Dieu. Et ben, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, des bisous à vous.
Et à tous ceux et toutes celles qui sont en lutte, du courage.
Ciao.
Salut.
Claire.
Démurge au chômage, file l'homme à son image. C'est une histoire d'amour, d'amour, d'amour toujours. Jackson, on peut donc affirmer sans offenser son archevêque que Dieu a la gueule et l'aspect d'un australopithèque. Dieu est un drôle de mec, un australopithèque. Oui, mais on l'aime quand même. Dieu est amour toujours. Ex Machina, Deus Ex Testa Rosa, Deus Ex Lamborghini, Deus Ex Maserati, Deus Ex Aston Martin, Deus Ex Machina, Deus Ex Machina.